Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, et Cinérama aujourd'hui qui vous fera écouter le son de Niagara et de Cyndi Lauper, et oui, ce sera ambiance années 90, tout simplement parce qu'il y a des films qui ont passé ces musiques. Alors le sommaire, c'est quoi Marine ? Bonjour.
Bonjour, alors moi je vais vous parler de Steve Jobs, le nouveau film de Danny Boyle, et je vais également vous parler d'un film français, très attendu, qui n'est visible que sur le net, qui s'appelle Made in France de Nicolas Boukrieff.
Et puis, eh bien, moi, je vous parlerai alors un tout petit peu de Peur de rien de Daniel Arbid, mais on l'écoutera surtout la réalisatrice qu'on a pu rencontrer. Et c'est précisément dans ce film Peur de rien qu'on entend notamment Niagara, parce que c'est un film qui se passe dans les années 90. Et puis, je vous parlerai aussi de Chair de poule qui sort le 10 février. Et puis, quant à Manu, qui n'est pas présent, eh bien, il a quand même vu des films et il nous parlera de Anomalisa de Charlie Kaufman, film d'animation troublant. Et c'est dans ce film qu'on écoutera Cyndi Lauper. Et puis si on a le temps, mais seulement si on a le temps, c'est la chronique maudite, les diaboliques d'Henri-Georges Clouzot.
Aurons-nous le temps ?
La chronique sur le cinéma fantastique français que Manu essaie de caser depuis le début de l'année.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Dans Steve Jobs, Danny Boyle nous dévoile sa vision controversée d'ailleurs, de la vie du célèbre inventeur de chez Apple. C'est un biopic pensé de façon très originale qui se dresse en trois actes, à savoir les trois lancements de produits phares qui ont ponctué la carrière de Jobs de 1984 à 1998, à savoir le Macintosh, le Next et le iMac. Nous ne verrons d'ailleurs jamais ces présentations puisque les trois séquences se déroulent juste avant que l'inventeur ne monte sur scène. Trois séquences au cours desquelles il doit affronter diverses personnes étroitement liées à sa vie, comme dans l'extrait qu'on va écouter son collaborateur Steve Wozniak, qui a toujours œuvré dans son ombre.
J'étais en colère. Ce que tu disais en parlant de l'Apple II, ta façon de traiter l'équipe, et moi...
T'es amnistié à vie. Je dois retourner sur scène. Il doit rester 2 minutes de répète en tout et pour tout.
Tu te rends compte à quel point t'es condescendant, là ? Enfin, peut-être que t'en sais rien.
Je veux pas qu'on t'attache les poignets à ta descente d'avion, c'est
les amnisties ? C'est toi qui distribues... Toi, tu vas m'amnistier, moi ?
Pense à tes artères, mon grand.
T'as fait quoi ? T'as fait quoi, toi ? Pourquoi Lisa sait pas qui je suis ?
Putain, t'en vois beaucoup des écolières qui savent qui t'es.
Tu sais pas coder. T'es pas ingénieur. T'es pas designer. Tu sais pas enfoncer un clou. Le circuit imprimé, c'était moi. L'interface graphique, on l'a piqué au Xerox Park. C'est Jeff Raskin qui chapeautait le projet Mac. Tu l'as fait évincer. Même le coffrage, c'est pas toi. Alors comment ça se fait que 10 fois par jour, j'apprends que Steve Jobs est un génie ? Tu fais quoi, au juste ?
Je joue de l'orchestre. Tu es un excellent musicien, tu as ta place là-bas, t'es le meilleur sur ton instru.
Je suis venu ici pour vider l'abcès, et tu sais pourquoi je suis venu ?
Tu viens de le dire,
non ? Je suis venu parce que tu vas te faire lyncher. Et ta machine va se planter. Le conseil consultatif de l'enseignement supérieur t'a dit qu'il voulait un poste de travail solide à 2-3 000 dollars. Ton next, tu l'as mis à 6 500, ce qui n'inclut pas le disque dur optionnel à 3 000 dollars, dont on va comprendre très vite qu'il n'a rien d'optionnel parce que le disque optique a une capacité trop faible. Avec l'imprimante laser à 2 500, ça nous met le total à 12 000 dollars. Et t'es la seule personne au monde à être complètement obsédée par la perfection de son cube. Tu vas te faire lyncher. Et moi, je suis venu pour être à tes côtés, parce que c'est ce que font les amis. C'est ce que font les hommes. Tu peux garder ton amnistie. On a un passé, tu me parles pas comme au premier venu. Je suis seul ici, à savoir que ce type devant moi, c'est un personnage que t'as inventé. Je vais être à tes côtés parce que ta merveille de Cube, qui sait rien faire, va bientôt devenir le flop le plus retentissant de l'histoire de l'informatique personnelle.
Dis-moi d'autres choses que j'ignore.
L'intérêt de la mise en scène étant de dessiner à travers les produits un portrait intime de l'homme qui les a conçus, puisque comme il le dit en fait juste après, un petit peu plus tard dans la même scène, ces produits valent mieux que lui. Et justement, et bien côté scénario, On a eu la main lourde sur le personnage principal, imbu de lui-même, despotique, prêt à s'asseoir sur la déontologie, le trait efforcé afin de le rendre le plus détestable possible. De nombreuses libertés ont également été prises avec la véritable histoire afin de donner lieu à plusieurs confrontations qui n'ont sans doute pas eu lieu en vrai, hein, mais qui permettent dans le film de croiser la fille de Jobs, son patron, ses associés ou encore son assistante, conférant au film un côté très théâtral. Au final, Boyle a réussi à transformer une histoire pas passionnante de coups bas entre ingénieurs en une tragédie en trois actes et à faire de Jobs un personnage totalement shakespearien. Et ça tombe bien, il est joué par Michael Fassbender qui sort tout juste de Macbeth. Michael Fassbender qui, il faut quand même le préciser, a une partition pas évidente à composer puisqu'il doit jouer Jobs à trois époques différentes de sa vie et il s'en sort extrêmement bien.
C'est on ne peut plus simple. Il nous faut consacrer nos ressources à mettre à jour l'Apple II.
En détournant les ressources du Mac ?
Le Mac est un échec, point final.
Il est vendu trop cher.
Aucun de nos indicateurs...
C'est moi l'indicateur ! Moi, je suis l'expert mondial S. Macintosh. Rappelle-moi ton CV à toi.
Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu rends la vie impossible à ton équipe. Notre élite se fait débaucher par Sundell ou HP. Wall Street ne sait plus qui est aux manettes. On s'est déprécié de centaines de millions de dollars. Je suis PDG d'Apple et toi, tu me demandes mon CV.
Mais avant, tu vendais de la flotte gazéifiée, c'est bien ça ? Moi, j'étais dans mon putain de garage, avec Wozniak, à inventer l'avenir, parce que l'artiste ouvre la voie, alors que le tâcheron cherche l'approbation.
Ok, bien. Ce garçon est hors contrôle. Je veux bien vous donner ma démission séance tenante, mais si vous voulez que je reste, ce sera sans lui.
Alors, quand je dis que je n'aime pas Danny Boyle, en général, les gens s'offusquent, qui me disent « Non, mais attends, Trainspotting, c'est quand même vachement bien. »
Et la plage ?
Et oui, alors Trainspotting, c'était bien, la plage, c'était pas mal, mais c'était quand même Trainspotting il y a 23 ans. Donc depuis, il y a eu quand même 127 heures et Trans, deux films très laids et très bêtes. Ce que je n'aime pas chez Danny Boyle, c'est que sa mise en scène se veut rock'n'roll, mais qu'elle n'est que pop, ce qui en soi n'est pas un défaut. Mais le cinéaste anglais glisse trop souvent vers le tape à l'œil et le mauvais goût, encore que ce 11e film fasse preuve d'une sobriété inhabituelle en comparaison avec les précédents. On retrouve néanmoins ici le rythme qui lui est propre, hein, que pour ma part je trouve fatigant, voire hystérique. Un rythme qui se veut au diapason de Jobs, entrepreneur sans cesse sur le qui-vive et à la répartie cinglante. Les dialogues fusent, la musique est incessante, on a parfois l'impression d'être devant Birdman pour le côté faux plan séquence en coulisses. Le talent en moins. On est donc très loin du biopic classique intitulé Jobs qui était sorti il y a 2 ans, dans un néant médiatique absolu d'ailleurs, interprété par Ashton Kutcher et qui se voulait lui très fidèle au déroulement des faits. Alors le responsable de ces petits arrangements avec la réalité ici, c'est le scénariste Aaron Sorkin, à qui l'on devait déjà Social Network. Il réussit plutôt bien, au final, à rendre le film plus romanesque. Et si vous ne connaissez pas grand-chose aux ordinateurs et au monde de l'informatique, eh bien vous devriez quand même pouvoir suivre, malgré quelques inévitables dialogues en langage technique. On pourra juste, à mon sens, critiquer l'écriture très hollywoodienne de la dernière partie, puisque après avoir démontré pendant 1h30 que Steve Jobs était un enfoiré de première, on le réhabilite par un twist un peu facile qui tente de chercher à expliquer son comportement de façon un peu psychologisante. Et j'ai trouvé ça un petit peu plombant. Voilà, et un petit peu dommage.
Bah, il pouvait pas le montrer comme quelqu'un de détestable, pas un salaud. Hein, c'est pas un salaud, c'est quelqu'un
simplement... C'est ce qu'ils font pendant 1h30, et c'est vrai qu'ils y vont vraiment à fond. Et puis à la fin, eh ben non, ils lui trouvent quelques excuses pour expliquer son comportement. Bon, évidemment, on va pas dire quoi, mais moi, j'ai trouvé ça un petit peu, un peu digne d'une série télé, quoi.
En tout cas, le dispositif, moi, je le trouve extrêmement bavard. Donc, c'est forcément en version originale, ça peut être un peu essoufflant. Mais j'ai trouvé le dispositif, la mise en scène, assez intéressante. Avec à chaque fois, effectivement, on a l'impression d'être au théâtre. Et puis, il y a toujours du public autour d'eux. Il y a toujours quelqu'un. Enfin, il y a rarement des huis clos, sauf un très petit nombre. Et puis, sinon, il y a toujours des gens qui sont là à écouter, puis à partir. Et puis, enfin, voilà, il y a toujours un public. Voilà. Et comme il y a des consommateurs de Apple qui sont là, qui s'intéressent aussi à la vie de Steve Jobs et puis à son succès. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour un biopic, alors que d'habitude, ça me rase plutôt.
Ah oui, ça, c'est sûr, oui, que ça sort de la forme classique, en effet.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors c'est un projet que Tim Burton a tenu quelque temps entre les mains avant de le lâcher pour un autre, c'était il y a déjà une quinzaine d'années. Mais finalement, eh bien, c'est le réalisateur de Gang de requins ou de Monstres contre aliens qui a récupéré le projet, Rob Letterman. Et qu'est-ce qu'il a pris ? Eh bien, il a décidé de réaliser Chair de poule. Alors il s'agissait donc de mettre en scène le monde mêlé de peur, de rire et d'aventure des livres Chair de poule, écrit par R.L. Stein. Mais comment choisir une histoire parmi les 200 que compte la série destinée aux enfants et adolescents ? Eh bien, les producteurs producteurs ont pris le parti d'explorer l'univers en créant leur propre histoire. Ils ont placé les ingrédients des romans, soit aventure, effroi et comédie. Mais surtout, ils ont tenté d'intégrer une grande partie des monstres peuplant la série. Et tant qu'à faire, l'auteur lui-même, Errol Stein, interprété par Jack Black. Alors le film commence tranquillement avec Zach. C'est un adolescent qui a quitté New York avec sa mère pour une petite ville de province. Zach est plutôt déçu du choix de sa mère, il faut bien le dire, mais plutôt ravi par la voisine Anna. Le seul problème est le père de la jeune fille qui refuse que Zach s'en approche. Ce voisin en devient un personnage inquiétant. Alors après s'être fait un ami sans doute le plus idiot du lycée, eh bien Zach entre de plein pied dans une aventure étrange et horrifique.
T'as ouvert un livre ?
Ouais, je suis désolé. Bah tiens, le v'là, je...
Non, ne l'ouvre pas !
Et oui, il ne faut pas ouvrir les livres de la bibliothèque du voisin, c'est un homme particulier, celui-là même qui a écrit les ouvrages, Errol Stein. Il crée donc des monstres à chaque aventure, et ces monstres peuvent apparaître réellement si on y prend garde.
J'aurais pu vous tuer !
Vous visez trop mal, impossible.
Qu'est-ce que vous faites ici ? Rentrez chez vous !
Avant, il faut nous expliquer ce qui se passe.
Je ne peux rien expliquer.
On a failli être dévoré par Flocon l'homme des neiges, alors essayez !
Ok, écoutez ! Lorsque j'étais jeune, j'ai créé mes propres amis ! Des monstres ! Des démons pour terroriser mes voisins et tous les gamins qui se moquaient de moi. Et ils devinrent réels pour moi. Et un beau jour, ils devinrent vraiment réels. Mes monstres ont littéralement jailli hors des pages. Tant que les livres sont verrouillés, on n'a rien à craindre. Mais quand on les ouvre, eh bien, vous avez pu voir ce qui se passe.
Effectivement, on avait vu sans qu'il ne l'explique. Mais cette explication permet de confirmer les premiers soupçons. Alors on entend en passage qu'après la dose d'aventure, nous sommes sur le ton quand même de la comédie, c'est un peu surjoué. Et il reste un autre univers à aborder.
Que personne ne fasse de bruit.
Alors oui, évidemment, elle crie. Mais Chair de Poule ne fait pas si peur. Il a un côté désuet, carton-pâte, série B décomplexée, mante religieuse géante, loup-garou en short, pantin pervers, gélatine vorace, mort-vivant. La galerie de monstres va bientôt déferler sur la paisible petite ville. Le trio d'adolescents, Zach, son copain gaffeur, la voisine, accompagnée par l'écrivain, vont se mettre en quête de faire revenir dans leur livre eh bien, les monstres évadés de l'imagination du créateur de Chair de Poule. Alors il faut prendre Chair de Poule pour ce qu'il est, un aimable divertissement de série B s'amusant avec les codes de l'univers qu'il illustre. Les monstres pourraient être effrayants, mais ils ne font pas tout à fait peur. On a un héros, sa fiancée, un copain gaffeur, omnibulé par les filles, et enfin un personnage en quête de rédemption, car il faut bien l'avouer, si les monstres attaquent la ville, eh bien c'est de sa faute, sa misanthropie n'y est pas pour rien. D'ailleurs, celui qui mène l'assaut eh bien, est un pantin arrogant qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors l'ensemble est plutôt drôle, avec des stéréotypes marqués, la tante exubérante, la mère proviseur qui veut se la jouer branchée, le prof dragueur et surtout un couple de policiers assez irrésistibles, avec un agent en formation prêt à intervenir au moindre geste. Alors on regrette d'ailleurs qu'ils n'apparaissent pas davantage ces deux policiers. Pour résumer, humour, monstres sympathiques, petites aventures, Chair de Poule ne donne pas la frousse, c'est davantage un clin d'œil à un univers peuplé de monstres. Alors moi j'ai pas connu la série, j'ai pas plus, pas davantage lu les romans, mais je pense qu'il fait beaucoup moins peur que ce qu'il illustre en fait. Voilà. Mm-hmm. Chair de Poule sort le 10 février.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et c'est la partie interview de cette émission Cinérama. Alors nous allons écouter Daniel Arbide pour son film Peur de rien qui sort ce 10 février. Nous sommes dans les années 90 et Lina, 18 ans, débarque à Paris pour y faire des études. Alors d'abord hébergée par la famille, elle décide de quitter le cocon où s'installait le malaise. Elle rencontre l'entraide, elle vit des histoires d'amour, une fois avec un rocker, une autre fois avec un homme marié travaillant dans la finance, rien à voir. Elle navigue naïvement entre plusieurs univers, de l'extrême droite au milieu anarchiste, là encore rien à voir. En clair, elle éprouve sa liberté. Daniel Arbide construit un récit emprunté à son histoire, puisqu'elle est elle-même libanaise et a débarqué en France dans les années 90. Son projet est de raconter la vision de la première fois et le parcours initiatique d'une jeune immigrée qui veut être libre de ses choix. Nous avons rencontré Daniel Arbide. Elle nous parle de Peur de rien.
L'administration a décidé le non-renouvellement de votre titre de séjour. Vous avez un mois pour quitter le territoire français.
Allez, vas-y.
J'ai l'impression qu'arriver ici, on ne peut pas tomber plus bas.
En fait, l'autobiographie dans ce film, c'est surtout, je me suis basée sur la première impression que j'ai eue de la France quand je suis arrivée, avant qu'elle ne s'efface avec les années encore plus. Où le premier choc, et c'était tellement important pour moi de me rappeler ces moments au début, comme pour confirmer ma vie en France. comme, je sais pas comment vous expliquer, ce film, c'était, je pouvais faire des films français, c'est-à-dire que là, j'ai un projet avec que des acteurs français, sans passer par celui-là, mais pour moi, c'était important de raconter cette vision de la France de la première fois.
Le problème, c'est que vous n'êtes pas inscrite à mon cours.
Je viens du Liban.
Ah. Bon, attendez-moi dehors, on va essayer de sauver votre peau.
Non, mais elle connaît pas la France, elle, heureusement pour elle.
Si, je connais la France, mon par cœur.
Ah bon, tu
je connais toute la région.
Allez, casse-toi, là, putain, reste pas là.
C'est quand même une fille qui vit des choses que vous pouvez vivre. Elle n'est pas exceptionnelle. Et les films, je pense, sur l'immigration, rendent l'immigré exceptionnel. Du coup, vous pouvez pas vous reconnaître en lui. Où vous pouvez vous reconnaître de façon peut-être compassionnelle, justement, mais quand le film est bien fait. Mais vous pouvez pas vous intéresser profondément à lui, quoi. Et je voulais que vous, Français, vous pouvez vivre la même chose qu'elle. C'est ça, la différence. Et je voulais qu'elle regarde la France, comme si je tournais la caméra. Je me disais, voilà, je vais... Ses yeux sont la caméra. Elle va regarder. Et toute cette vie va vivre... Elle va la vivre et la caméra va la capter.
Les arbres se penchent plus fort que...
C'est quoi une aventure?
C'est plus qu'un coup, c'est moins qu'une histoire.
Tu arrêtes!
Sale rouge, va!
Et alors, aux prochaines élections, c'est Le Pen qui passe à cause de tes conneries. Et il passera toujours.
Tant que les champs
brûlent... Ah,
c'est une carte de séjour en plus, toi.
Tu fais encore de jouer la victime, la pauvre petite émigrée, va te faire foutre.
Elle veut être libre. Libre de sa famille, libre des contingences sociales, libre de tout qu'on comprend après. Elle veut être libre. Alors, pour les autres, je pense qu'ils viennent aussi en France pour assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. C'est tout simple. Enfin, pour que leurs enfants soient libres, pour qu'ils ne soient pas obligés d'obéir à je ne sais plus quel crétin. Donc, c'est ça, être libre. Être libre de ses choix. Pas être libre pour sortir en boîte. C'est pas ça, être libre. C'est ce qu'elle fait dans le film. Elle fait des choix. Elle choisit qui elle veut entendre, elle choisit qui elle veut aimer, elle choisit avec qui elle veut être amie, même si ses choix ne sont pas forcément exemplaires, mais c'est ses choix et c'est des choix humains.
Je m'occupe à longueur de journée de gens qui ne veulent pas retourner dans leur pays, et bon, j'estime que pour vous, ce n'est pas vraiment le plus dramatique.
Si c'est dramatique, si je ne veux pas rentrer, moi.
Reconduite à la frontière, vous voyez l'image de reconduire à la frontière, et tous ces gens, et c'est tous les jours ça. Vous avez des vies entières qui s'arrêtent comme ça. Et ça aurait pu être elle, après toutes ces rencontres, d'être reconduite à la frontière. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'étrangers, du coup, ça vous fait prendre conscience de ce que c'est un étranger, peut-être plus. Et comment il vit et qu'est-ce qu'il cherche, c'est ce que je voulais aussi. Des vies entières passées ici, c'est pas rien, quoi. En général, les étrangers, ils sont là, ils veulent pas prendre le truc des autres, ils veulent juste partager ce rêve fantastique d'une société idéale. Vous avez créé une société qui s'approche plus de l'idéal et ils veulent apprendre et ils veulent la vivre. C'est ça l'idée.
N'oubliez pas de leur dire. Je pensais qu'on était libre en France.
Ouais, je vous dirai pas.
C'est un peu sur le fil émotionnel, hein. Voilà, donc c'était Daniel Arby, la réalisatrice de Peur de Rien. Un peu sur le fil émotionnel, hein, Marine, ce film.
Oui, moi j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais ça très frais, très juste, très bien interprété aussi.
Avec et... une actrice qui n'est pas une actrice professionnelle.
Absolument
qui
pas, ouais. Non, apparemment, c'était son premier rôle et elle le porte vraiment à bout de bras. C'est assez impressionnant. Et oui, non, j'ai vraiment trouvé que c'était un film à la fois léger et très profond et très intéressant. Vraiment, c'est à voir.
Voilà. Et pas du tout misérabiliste de toute façon sur l'immigré, même si elle cherche effectivement à rester en France. Voilà. Enfin, de toute façon, elle est très bien intégrée. Et c'est surtout ses rencontres et puis son initiation, ne serait-ce qu'à l'amour. Parce qu'il y a une espèce de contre-champ à un moment. On va au Liban et on voit sa famille, on voit la vie qu'elle aurait pu avoir au Liban et on se rend compte effectivement de la différence. C'est pourquoi Daniel Arby disait que finalement, l'immigré cherchait aussi le modèle de société que nous, on leur mettait en pleine face. Voilà, donc Peur de Rien, on espère que ça restera un petit moment sur les écrans. C'est le 10 février que ça sort.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et maintenant, nous allons entendre Manu qui a vu Anomalisa, film d'animation de Charlie Kaufman et Duke Johnson.
Les cinéphiles connaissent essentiellement le travail de Charlie Kaufman en tant que scénariste de quelques films cultes, notamment Dans la peau de John Malkovich et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le dispositif proposé par Anomalisa laisse songeur et de prime abord plutôt déstabilisant. Charlie Kaufman, après l'étonnant Sidney Docks New York, son premier long, se risque à raconter une histoire à tendance réaliste d'un quadragénaire en pleine crise existentielle sous la forme d'un film d'animation en stop-motion co-réalisé par le spécialiste Duke Johnson. Les personnages ressemblent étonnamment à des marionnettes uniformes s'agitant dans un monde froid et glacial. Géniale idée qui peut néanmoins tenir du concept brillant mais stérile. Tous les individus qui gravitent autour du protagoniste principal, Michael Stone, possèdent la même voix et un physique similaire, hommes et femmes confondus. Le procédé vertigineux saisit l'ampleur et l'ambition du projet, raconté de l'intérieur, du seul point de vue subjectif, la tristesse maladive d'un homme en proie à la dépression qui voit dans l'autre un clone reproduit à l'infini. Contaminé par une société consumériste et aseptisée, ainsi que par un travail aliénant, une sorte de manager qui a écrit un livre sur la réussite, il s'est progressivement déshumanisé au point de ne plus ressentir d'émotion, d'être las d'un monde dans lequel il n'appartient plus tout à fait. Il fait juste semblant d'exister. Lors d'un voyage d'affaires où il est contraint de présider une conférence, il tente une approche forcément vouée à l'échec de renouer avec son ex. La discussion dans le bar de l'hôtel tourne au fiasco et il retombe bredouille dans sa chambre d'hôtel. Et là, l'improbable se produit. Il rencontre deux jeunes femmes, dont l'une, pourtant dotée d'un physique apparemment disgracieux, qui possède une voix douce et féminine, celle de Jennifer Jason Leigh, qui revient en force après quelques années de silence. Une idylle aussi furtive que bouleversante d'un être entre ces deux êtres. Alors, passé la surprise du procédé visuel qui ne manquera pas d'en gêner certains, on peut avancer l'idée que, paradoxalement, il s'agit du meilleur moyen pour décrire un monde de surface, déshumanisé, voire désarticulé, accentué par la technique d'image par image, avec un rendu saccadé. Alors, nous sommes des marionnettes au service d'une civilisation moderne sans âme. Les décors, avec ses couleurs en demi-teinte, accentuent l'atmosphère monochrome et rigide qui règne dans Anomalisa. Très beau titre d'ailleurs, énigmatique seulement en apparence, comprenne qui verra. Alors il y a du Welbeck dans cette vision du monde, on pense aussi au premier roman, à ses premiers romans comme extension du domaine de la lutte ou les particules élémentaires. Kafka n'est jamais très loin, notamment pour l'hilarante et cauchemardesque séquence de rêve qui pousse la paranoïa de l'anti-héros à son paroxysme. Ni Beckett d'ailleurs, et on n'est finalement pas étonné d'apprendre que le film était au départ une pièce de théâtre écrite par le réalisateur sous le pseudonyme de Francis Fregoli, toujours fidèle à sa schizophrénie créatrice. L'anomalie se produit, l'amour renaît le temps d'une nuit et d'une scène d'amour absolument magnifique qui produit une émotion inédite. Un dérèglement surgit alors dans ce film qui va vers un ailleurs, emprunte alors une voix inédite, rappelant les instants magiques des plus belles histoires d'amour de ces dernières années comme Two Lovers ou In the Mood for Love. Kaufman touche au cœur en n'hésitant pas à dénuder ses figurines imaginaires et en gommant toutes sortes de glamour superflu. Alors par petite touche intimiste, il observe deux corps maladroits, imparfaits et émouvants, davantage que bien des silhouettes en chair et en os qui s'agitent vainement dans le cinéma mainstream. Le parti pris pourrait sombrer dans le ridicule, au contraire, Anomalisa trouve son point d'orgue, sa raison d'être à travers cette rencontre charnelle. À se demander d'ailleurs si le film n'existe pas juste pour ce moment d'une sensibilité tout à fleur de peau. Alors bien sûr, plus dure sera la chute avec le retour à l'horrible normalité des choses. Alors sans vous raconter la suite, ce beau geste de cinéma devient plus monocorde, voire programmatique, donc légèrement décevant. Le désespoir, parfois factice, l'emporte et c'est bien dommage. Mais logique en même temps. Kaufman nous convie tout de même à une expérience singulière qui risque de se bonifier avec le temps, car à aucun moment il cherche les pattes et la virtuosité surfaite avec Anomalisa, une des réelles surprises de ce début d'année 2016. Il faut aussi souligner la performance auditive unique de Tom Noonan, que l'on connaît pour ses rôles dans Manhunter ou Last Action Hero, immense acteur méconnu qui prête la même voix douce et monocorde jusqu'à l'inquiétude à presque tous les personnages.
Alors, on pourrait être surpris d'entendre Cyndi Lauper alors qu'on parle d'un film d'animation à dimension Welbeckienne. Mais c'est parce que c'est la seule musique, en fait, qu'on entend dans le film, mis à part le générique avec une chanson composée par Charlie Kaufman, qui est assez surprenante. Enfin, on a l'impression qu'il a 14 ans, qu'il prend sa guitare et allez, je me lance. C'est assez étonnant parce que, après ce qu'on a vécu pendant une heure et demie, film d'animation, pour le coup, assez étrange. Je suis assez d'accord avec, de toute façon, ce qu'a dit Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Bon, on va passer à quelque chose de beaucoup moins drôle maintenant, à Made in France de Nicolas Boukrieff. Alors, Made in France, c'est un film qui a été rattrapé par la réalité qu'il décrit. Filmé avant même les événements de janvier 2015, le film de Nicolas Boukrieff, qui décrit la mise en place d'une cellule djihadiste en France, avait vu sa sortie repoussée alors qu'elle devait s'effectuer en novembre. Le réalisateur a finalement décidé lui-même, du moins c'est ce qu'il dit, de renoncer à une sortie en salle et de laisser son film disponible en VOD. Il semblerait que ce soit en effet le meilleur moyen pour que les gens le voient, puisqu'apparemment ça marche pas trop mal. L'erreur est sans doute justement de placer trop d'attentes dans ce film, de le considérer comme un documentaire visionnaire détenant une vérité absolue, alors qu'il demeure une œuvre de fiction, certes basée sur des faits réels, hein, mais une œuvre de fiction quand même. Le scénario, plutôt classique mais assez bien vu, reprend la figure habituelle de l'infiltré. Sam, jeune journaliste en freelance, prend le risque d'infiltrer les mosquées clandestines de Paris afin d'écrire sur ce sujet. Fort de sa culture musulmane, il s'intègre rapidement et devient ami avec d'autres jeunes convertis. Mais lorsque leur cousin Hassan revient du Pakistan et leur propose de préparer des attentats, Sam se retrouve pris dans un engrenage dont il ne peut plus s'échapper.
On a pour mission de créer une cellule d'action à Paris. Cette cellule pourra se réclamer d'Al-Qaïda.
Yes.
Réfléchissez bien. Si vous acceptez, vous ne pourrez plus faire marche arrière.
Mais on va dépendre de qui? Les ordres vont venir de là-bas ou il y aura quelqu'un ici?
Sois patient, mon frère. L'important pour tout de suite, c'est de savoir si vous méritez leur confiance. À chacun d'entre vous de répondre. Moi, j'ai choisi.
Ici ou là-bas, c'est le même combat, mon frère. Je te suis. Moi aussi.
Et toi?
Bien sûr. Bien sûr.
Nous sommes ici devant un thriller non pas psychologique mais sociologique, extrêmement bien documenté, qui maîtrise son sujet. Made in France est doté d'un bon rythme, d'un vrai sens de la mise en scène, avec une ambiance anxiogène très bien mise en place, quoique les ficelles soient parfois un petit peu grosses. Le film tente de placer son spectateur dans un climat de paranoïa, à l'aide de twists à répétition, parfois un petit peu convenu. Moi, après, ce qui m'a surtout gênée, c'est vrai, c'est cette image d'EV qui est censée donner un côté réaliste et qui s'avère juste très, très vilaine. Au fond, c'est un film qui a été fait avec pas grand-chose et c'est très bien comme ça. Alors, on peut aisément imaginer le film que Hollywood aurait fait avec le même scénario, avec Matt Damon dans le rôle titre et 200 millions de dollars de budget. Ici, le réalisateur s'en sort avec quelques huis clos, peu de scènes à grand spectacle et c'est ce qui sert finalement son propos, puisqu'il est bien question d'évoquer les rouages d'une guerre souterraine. Le casting, en revanche, est un peu inégal, souffre parfois d'une direction d'acteur qui laisse à désirer. Dommage que le personnage central, quoique très bien interprété par Malik Zidi, ne prenne aucune épaisseur au cours du film et que les autres personnages soient des archétypes un peu trop grossiers pour être crédibles. Mais le majeur problème du film, ça reste sa fin, puisqu'en faisant du principal commanditaire des attentats un simple psychopathe plutôt qu'un islamiste intégriste, le film perd son propos et ne sait plus trop sur quel pied danser. Il tente de se rattraper en terminant par un message de paix autour de la religion, dont la naïveté entre en totale contradiction avec tout ce qu'on a vu précédemment. Alors, je peux pas trop en dire plus pour éviter de spoiler. Ça reste un film honnête, un peu bancal, mais qui plie, c'est vrai, sous le poids de son sujet, qui est quand même très lourd à porter. Alors précisons que l'un des acteurs en particulier est très bon, c'est François Civil, qui joue en fait un petit bourgeois catholique qui se convertit par fascination pour les armes. François Civil, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre, c'est un très grand ami de Pierre Niney, et d'ailleurs il va partager bientôt l'affiche de son prochain film, avec lui. Et moi je pense que c'est un des prochains acteurs français qui va très bien marcher.
Comme tu avais annoncé le succès de
Michael Fassbender, il y a 5-6 ans de ça, voilà.
Là tu viens d'annoncer, dans 5-6 ans,
Voilà, vous verrez, okay. Vous verrez.
Merci Marine. On le précise, Made in France sort en VOD seulement et pas dans les salles. On va se quitter avec la tour de contrôle infernal de Éric Judor et Ramzi Bedia. Voilà, ce sont les noms, donc Éric et Ramzi, finalement. Octobre 1980, Ernest Krakenkrieg et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l'armée française. Et suite à une malencontreuse erreur au cours d'un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel.
Eh, tu me prends pour un imbécile?
Oui, jamais de la vie. Si.
Tu sais combien j'ai de QI?
Non, combien?
J'ai 40.
Ouais.
Ah bon? Ouais, 40.
Ah, tu fais plus. Tu fais 45.
Ah, merci.
Je t'en prie.
Ouais, et souvent, ils disent, dis donc, toi combien? T'as au moins 50 et tout. Et je dis non. Je dis la vérité, désolé, j'ai que 40.
Alors, l'armée veut garder ses légumes car il s'agit de leurs meilleurs légumes. Ils sont donc placés comme bagagistes à Orly West. Là se trouve la genèse des aventures des deux laveurs de carreaux de la tour Montparnasse infernale, le premier numéro.
Bah non, il y en a un dedans.
Bon alors.
Eh oh,
si tu parles à une tronche.
Je pense.
Donne-moi des calculs.
5 plus 5.
25.
Hein?
Ça fait rire Marine, évidemment. Ça fait rire pas mal de personnes. C'est un humour, enfin voilà.
Moi, je trouvais ça très marrant.
On en a l'illustration. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film, parce que moi, j'ai plutôt ri, alors pas forcément au couple Eric et Ramsey, mais plutôt alors, au second rôle, notamment Philippe Catherine, qui a un rôle merveilleux. C'est lui le méchant du film. Il y a ceux qui entourent Philippe Catherine aussi. Il y a une espèce de Jack Lang, donc un ministre de la culture, mais qu'on place ministre des armées et qui n'est pas du tout à sa place, ou ministre de l'intérieur et qui n'est pas du tout à sa place. Enfin voilà. Et tout ça est très bien orchestré en fait, et les seconds rôles sont très drôles. On en écoute un.
Oui, alors, on vient de récupérer deux individus, oui. Alors, c'est non, pas de canard, mais il ne faut pas s'ils sont. Ils doivent être sans doute bloqués au rez-de-chaussée. Serait-il lui ou. Quel est votre avis ou. Plutôt non.
Quelqu'un a compris?
Oui, je. Moi. Disons moi.
Disons quelqu'un d'autre surtout.
Voilà, donc c'était l'illustration donc, des seconds rôles, c'est quand même la moitié du film, donc au moins on peut y aller pour ça, si par exemple vous n'appréciez pas forcément Eric et Ramsey. C'était donc un petit aperçu de la tour de Contrôle Infernal qui sort ce 10 février.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors Marine, la semaine prochaine, tu parleras de deux films qui sont des perles, j'ai l'impression.
De Joséphine Sarandi et de des Innocentes. As-tu pensé au Kev Adams, ami public? Eh bien, j'en parlerai aussi. Voilà, parce que quand il y a de la place pour deux, il y en a pour trois. Voilà.
Eh bien, merci. À la semaine prochaine.
Cinérama,
il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.